Le journal. Bonsoir Anne Fauquemberg.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Un nouvel épisode dans le feuilleton autour du CETA. La signature est de nouveau envisagée après la position commune arrêtée ce midi par la Belgique. Un accord que le Conseil européen compte toutefois bien stabiliser avant de revenir vers les Canadiens pour conclure le traité de libre-échange. Pierre Benazé nous attend à Bruxelles avec les détails. Dans le chaos syrien, la Turquie clarifie ses positions. Ankara s'engage à soutenir la coalition qui s'organise pour reprendre la capitale de l'État islamique, Raqqa. Un moyen aussi de neutraliser les Kurdes engagé auprès des Occidentaux, nous dira Alexandre Billette. Et puis le prix Sakharov, attribué à deux femmes yézidis ayant fui les atrocités de l'État islamique. L'occasion de rappeler avec Donatella Rovera d'Amnesty International que le calvaire de cette communauté est loin d'être terminé. Enfin, en France, la région PACA se transforme ce soir en terrain d'affrontement entre les deux favoris de la primaire de la droite, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, le maire de Bordeaux qui veut s'imposer dans cette région pro-sarkoziste. Les explications à suivre de Stéphane Robert. Le Premier ministre belge Charles Michel l'a annoncé à l'heure du déjeuner. Après d'intenses négociations entre les différents niveaux de pouvoir en Belgique, le pays a réussi à se mettre d'accord sur une position commune sur le traité de libre-échange CETA entre l'Union européenne et le Canada. La signature de cet accord se heurtait au veto du Parlement wallon, soutenu par la région de Bruxelles-Capitale, qui demandait des modifications rejetées par les autorités européennes. Tête de proue de cette fronde, Paul Magnette, le ministre-président de la Wallonie, il ne regrette pas d'avoir fait annuler le sommet qui devait se tenir aujourd'hui avec le Canada.
Je pense que c'est très important, non seulement pour la Wallonie, mais si on a pris un peu de temps, et je suis désolé pour tous les autres Européens que nous avons fait attendre et pour nos partenaires canadiens, mais si on a pris un peu de temps, c'est parce que je pense que ce qu'on a pu obtenir ici est important non seulement pour les Wallons, mais pour l'ensemble des Européens. C'est vraiment une question fondamentale, la question de savoir de quel monde voulons-nous. Est-ce qu'on veut un monde avec des règles ou un monde sans règles? Nous voulons réguler ce marché, nous voulons pouvoir protéger les citoyens. C'est pour ça que nous nous sommes battus et je crois que ça en valait la peine puisque nous avons été entendus.
Paul Magnette avec Pierre Benazé que nous retrouvons tout de suite en direct de Bruxelles. Bonsoir.
Bonsoir Anne.
Alors qu'est-ce qui a permis ce retournement de situation ce midi?
C'est l'adoption de cette note additionnelle, un texte interprétatif qui va être ajouté au texte de l'accord. Le point principal pour la Wallonie, mais finalement aussi pour les autres, c'est que chacun des parlements devra être consulté. Il y a 7 parlements en Belgique, consulté quand interviendra la ratification finale de l'accord économique et commercial global avec le Canada. Si les 28 se mettent d'accord et que le traité peut être signé en présence du Premier ministre canadien Justin Trudeau, ce ne sera en fait qu'une première étape, l'application anticipée et partielle de l'accord, en attendant son entrée en vigueur complète qui n'interviendra qu'après les ratifications parlementaires. Donc, l'autre point important et essentiel que réclamaient les Wallons, c'est une refonte de l'organe de règlement des différends entre investisseurs. Les Belges ne procéderont pas à la ratification de cette cour d'arbitrage qui devait régler les différends entre les États et les entreprises, tant que cette cour d'arbitrage n'aura pas été transformée en cour internationale publique et que des garanties sur l'impartialité des juges n'auront pas été données. Et la Wallonie, inquiète pour son agriculture, a aussi obtenu l'assurance de pouvoir déclencher les mesures de sauvegarde en cas de déséquilibre à l'importation, ainsi que la garantie du maintien du droit de chaque pays d'autoriser ou d'interdire les OGM.
Alors le Canada s'est dit prudemment optimiste pour la suite de la procédure, cela par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Stéphane Dion, qui était tout à l'heure à Paris. La note additionnelle dont vous venez de parler, Pierre, doit encore être entérinée par les différentes instances législatives régionales belges, puis obtenir l'approbation du Canada et des autres États de l'Union européenne, autant dire que ce n'est pas fini.
Effectivement. Alors pour ce qui est de la Belgique, c'est vraiment pas terminé parce que les 7 parlements doivent être consultés, les parlements fédéraux, des communautés linguistiques et des régions. L'accord trouvé à midi entre les dirigeants de toutes ces entités prévoit que ces parlements doivent donner leur réponse avant demain minuit. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on saura si la Belgique dispose ou non de l'aval nécessaire pour donner son feu vert à l'Union européenne, sachant que les 28 autres ont déjà donné leur aval, les deux derniers étant la Roumanie et la Bulgarie, après avoir obtenu des assurances sur les visas pour leurs ressortissants au Canada. En attendant, pendant que les parlements belges sont consultés, c'est aussi le cas des Européens qui doivent avaliser ce texte de compromis intra-belge. Les ambassadeurs représentants permanents des 28 à Bruxelles se sont penchés aujourd'hui sur ce texte pour en évaluer la portée. Et ce n'est qu'après tout ceci qu'un nouveau sommet pourra être reconvoqué, a priori pas avant la semaine prochaine.
Merci Pierre Benazé pour vos précisions en direct du bureau de Radio France à Bruxelles. Paris Europlace, l'organisme chargé de développer la place financière de Paris, demande au pouvoir public des mesures pour rendre la capitale française plus attractive après le Brexit, notamment la création d'une zone franche, à savoir un statut dérogatoire au droit du travail français pour les cadres supérieurs des entreprises londoniennes. Des discussions sont en cours avec le gouvernement, mais à ce stade, le ministre de l'économie, Michel Sapin, est réticent. L'Union européenne qui a approuvé de nouvelles sanctions contre 10 hauts responsables du régime Assad. Ils seront soumis, ces hauts gradés syriens, à une interdiction de pénétrer sur le territoire de l'Union européenne et à un gel de leurs avoirs. Toujours concernant la Syrie, la Russie dit qu'elle n'a rien à voir avec les frappes contre une école à Idlib hier. Frappes qui ont tué plus de 20 civils, dont plusieurs enfants. Démenti dénoncé cet après-midi par Jean-Marc Ayrault. Selon le ministre des Affaires étrangères, ces bombardements ne peuvent venir que de Moscou ou du régime syrien. La justice française qui vient aussi de se saisir d'une enquête sur la disparition de 2 franco-syriens il y a 3 ans dans les geôles de Bachar al-Assad. Par ailleurs, alors que la coalition internationale s'organise pour reprendre Raqqa, le fief de l'État islamique dans le pays, la Turquie, déjà engagée dans le nord du pays, clarifie ses positions. Dans un discours télévisuel, le président Recep Tayyip Erdogan annonce sa participation, une façon de mettre sur la touche les milices kurdes que cherche à neutraliser Ankara. Les explications de notre correspondant Alexandre Billette.
L'objectif d'Ankara confirmé par Recep Tayyip Erdogan aujourd'hui est double. D'abord, neutraliser les milices kurdes, reprendre la ville de Manjib sous leur contrôle désormais et repousser ses forces à l'est de l'Euphrate afin d'empêcher les Kurdes d'établir un territoire contigu au nord de la Syrie. Deuxième objectif turc, faire avancer les rebelles syriens qui lui sont fidèles plus en profondeur à l'intérieur du territoire syrien. Première cible, la ville d'Al-Bab et ensuite nous allons avancer vers Raqqa, a aujourd'hui dit le chef de l'État turc. Contrairement à Mossoul où Ankara a été mis sur la touche, le pouvoir turc entend bien ne pas être écarté de la coalition lors de l'éventuelle bataille de Raqqa. C'est aussi, peut-être surtout pour la Turquie, une façon d'obliger Washington à faire un choix entre la Turquie et les forces kurdes que les Américains soutiennent aujourd'hui. Laissez tomber les terroristes kurdes et expulsons ensemble Daesh, a dit le président turc à l'adresse des Américains. Et les Américains qui semblent aujourd'hui disposés à écouter la Turquie, nous devons collaborer étroitement en Syrie, a dit hier lors d'une longue conversation téléphonique Barack Obama à Recep Tayyip Erdogan.
La guerre en Syrie et en Irak contre l'État islamique qui donne souvent l'impression aux populations civiles d'être abandonnées par la communauté internationale, c'est ce qu'a souvent dit Nadia Mourad qui vient de recevoir le prix Sakharov du Parlement européen avec Lamia Haji-Bachar. Ces deux femmes yézidis sont devenues le symbole de leur communauté menacée de génocide par l'État islamique. Elles ont réussi à fuir l'Irak où elles étaient devenues des esclaves sexuelles il y a quasiment 2 ans. 3200 yézidis sont toujours actuellement entre les mains de l'État islamique et leur fuite, rendue possible, est extrêmement rare, explique Donatella Rovera. Elle est chargée des crises et des conflits pour Amnesty International.
À part les rescapés, les femmes comme Nadia et Lamia qui ont-elles pu revenir, il en reste encore des centaines, peut-être des milliers de femmes, de filles, d'enfants qui sont toujours entre les mains du groupe de l'État islamique. Donc, il y a des initiatives, il y a de l'aide, de l'assistance, mais qui est en même temps insuffisante et inadéquate. Il faut beaucoup plus d'efforts. Et aussi, il faut beaucoup d'efforts au niveau international, au niveau des autorités irakiennes, pour faire en sorte que ceux qui se sont rendus coupables de ces atrocités aient à rendre des comptes pour que justice soit faite pour les victimes. Par exemple, aujourd'hui, là, depuis une semaine et quelques, l'accès est sur la bataille de Mossoul. Et donc, on ne parle pas autant qu'il faudrait d'autres sujets qui sont liés. Et cet aspect-là, il faut trouver le moyen de le garder toujours vivant. Car le fait d'être revenu n'est pas la fin de leur cauchemar. Ils ont leur père, leur mère, leurs sœurs, leurs frères, leurs enfants qui sont encore entre les mains de l'État islamique.
Des propos recueillis par Valentine Letesse. Vous retrouvez sur notre site internet franceculture.fr un dossier complet sur ce prix Sakharov 2016 et la communauté persécutée des yézidis. En Afghanistan, 2 hauts responsables d'Al-Qaïda ont été tués dans une frappe de drone américain, offensive qui a eu lieu dimanche dans une province limitrophe du Pakistan, mais qui vient seulement d'être révélée. Farouk Al-Qahtani et Bilal Al-Houtabi étaient considérés comme les numéro 1 et numéro 2 ou 3 de l'organisation terroriste dans le pays. Ils auraient organisé le financement et la préparation d'attaques contre les forces de la coalition en Afghanistan, ainsi qu'en Asie du Sud-Est et en Occident. À Calais, c'est une impression de fin du monde qui règne dans la jungle, entre les tentes éventrées et les débris hétéroclites éparpillés dans la lande. Les gros travaux de déblaiement ont commencé. Les derniers quarts doivent partir d'ici ce soir avec des migrants volontaires vers les centres d'accueil. Mais le problème n'est pas réglé pour autant. Le flux d'arrivée de nouveaux migrants n'est pas prêt de se tarir. Et à Calais, on est passé d'une opération humanitaire à une opération sécuritaire, Thibault Lefebvre.
How old are you? 17, of course.
Depuis ce matin, la police sillonne ce qui reste de la jungle. Certaines parties du terrain sont désormais bloquées. Et derrière le cordon de sécurité, des engins de chantier et des contrôles d'identité. Jérémy est un bénévole de l'association L'Auberge des Migrants. Il a assisté à des interpellations.
On a vu les policiers se rendre en masse dans l'école des Dunes où quelques enfants ont été hébergés l'année dernière parce qu'ils n'avaient pas endroit où dormir. Et ensuite, ils les en ont mis un nombre, 5-6 à genoux et ils les ont embarqués dans des fourgons. J'ai une vidéo pour en témoigner si besoin. La loi dit que ça s'apprécie selon leur dire à eux, donc si eux déclarent qu'ils sont mineurs. Mais là, en plus, visuellement, c'était évident.
Première sommation, on va faire usage de la force.
Face aux policiers, des dizaines de représentants associatifs, ils ont organisé une conférence de presse. L'objectif, dénoncer une opération qui n'a plus rien d'humanitaire selon eux. Au bout de quelques minutes, le rassemblement est dispersé. Amine Trouvé-Bagdouche est le coordinateur médecin du monde dans le Pas-de-Calais.
C'est un démantèlement humanitaire. Donc les humanitaires doivent être démantelés. On a tenté de nous instrumentaliser pour expliquer que c'était un démantèlement en communication très humanitaire. Nous dénonçons simplement ce qui s'est passé. Là, vous avez des CRS. Pour le coup, je pense que la communication prend un coup de l'État.
Un rire nerveux qui dissimule une tristesse sincère. Selon les associatifs, des dizaines de migrants de la jungle seraient actuellement en centre de rétention administrative.
Et les associations, justement, l'Auberge des Migrants, mais aussi le Secours catholique, elles affirment qu'entre 2000 et 3000 migrants auraient fui la jungle pour s'installer ailleurs dans le Calaisie ou à Paris. La justice coupable idéale pour désamorcer la colère des policiers, c'est le ressenti en tout cas du syndicat de la magistrature après les annonces du ministre de l'Intérieur. Au-delà d'une enveloppe de 250 millions d'euros pour renforcer les moyens, Bernard Cazeneuve a promis hier un alourdissement des peines pour outrage aux forces de l'ordre calqué sur l'outrage aux magistrats ou encore un allègement des procédures pénales. La semaine dernière, c'était l'USM, l'Union syndicale des magistrats majoritaires, qui s'était inquiété d'un procès en laxisme fait par les policiers. Aujourd'hui, Clarisse Taron, avocat général à la cour d'appel de Besançon et présidente du syndicat de la magistrature, dénonce, je cite, une forme de populisme de la part du gouvernement.
Il se trouve que ça fait quand même 30 ans à peu près que je suis magistrat et 30 ans que j'entends la même chose. Le discours qui consiste à dire la police les arrête, la justice les relâche, je ne sais pas si ça vous fait pas cette impression, mais enfin ça a un air de déjà entendu. Alors que sur un mouvement de colère, notamment initié à l'origine par le drame de Viry-Châtillon, on dit ce discours qui est tenu, on peut l'entendre, que le ministre de l'Intérieur emboîte le pas. C'est plus contestable, c'est-à-dire que en essayant de faire croire qu'il est d'accord avec les policiers, par exemple, qui considéreraient que la procédure pénale et les garanties données aux justiciables ne sont en fait pour eux qu'une source de paperasse insupportable, ou de leur donner une piètre consolation en leur expliquant que l'outrage à policier sera aussi puni que l'outrage à magistrat, c'est-à-dire un an d'emprisonnement encouru au lieu de 6 mois, on a l'impression que le ministre de l'Intérieur se défausse sur l'institution judiciaire d'un malaise des policiers qui concerne aussi leur propre administration. Quand ils disent on nous donne des injonctions qui n'ont pas de sens, on nous soumet à une politique du chiffre insupportable, ça ils le disent aussi. Ils ont réclamé bien des choses aussi, y compris à leur hiérarchie police et à leur ministre.
Des propos recueillis par Bénédicte Robin. Après s'être ancré hier dans l'héritage Mitterrand au Louvre, François Hollande semble s'agripper à l'idée d'une deuxième candidature à la présidentielle. Ce matin, devant l'Union professionnelle artisanale réunie à Paris, le chef de l'État a répondu aux critiques des artisans qui lui reprochent d'avoir instauré le fameux crédit d'impôt CICE qui ne bénéficie pas assez à ses entrepreneurs. Bonsoir Maxime Fayolle.
Bonsoir.
Le chef de l'État a surtout profité finalement de cette matinée pour vanter aussi son bilan.
Oui, d'ailleurs, presque tout y passe. La lutte contre le terrorisme, la réception des syndicats de police hier, la baisse du déficit. Oui, mais pour les artisans, eh bien, pas grand-chose. Alors, le chef de l'État a bien vanté le CICE, qui bénéficie pourtant plus aux grosses entreprises qu'aux artisans, mais il a aussi fait une promesse.
Oui, l'avenir du CICE, c'est d'être transformé en baisse de cotisation. Grâce au CICE, il y a eu progression de l'embauche, ce qui explique d'ailleurs les chiffres depuis le début de l'année. Le CICE a permis l'investissement et a permis aussi l'augmentation des salaires. Et c'était nécessaire.
Et nécessaire, sauf que dans les faits, ça ne se passe pas toujours pareil. Exemple avec Sylvain Formès, il est artisan peintre près de Lyon.
En 5 ans, je suis passé de 12 salariés à 3 salariés, donc c'est pas un bilan positif pour les entreprises. Il n'y a pas eu des mesures percutantes pour l'artisanat. Il y a eu le CICE qui a favorisé les grosses entreprises. C'est en gros 1000 euros par salarié et par an. Quand j'ai 3 salariés, ça me fait 3000 euros, ça me permet pas de faire grand-chose. Ça me permet de me payer de temps en temps.
Et même son de cloche chez Jean-Pierre Crouzet, le président de l'UPA. Les promesses de François Hollande arrivent un peu tard pour lui.
Nous aurions préféré la baisse des charges sociales directes plutôt qu'un CICE qui était beaucoup plus complexe. Trop souvent, les orientations qui sont prises pour 2% d'entreprises et pas pour 98% des entreprises qui ont une fiscalité totalement différente.
Alors l'Union professionnelle artisanale a formulé 13 priorités pour le prochain quinquennat et espère cette fois être entendue un peu plus rapidement.
Merci Maxime Fayolle pour vos précisions. François Hollande qui par ailleurs vient d'annoncer 1 milliard d'euros supplémentaires pour la politique de la ville depuis la Cité des sciences de la Villette à l'occasion d'un forum des conseils citoyens. À l'Assemblée nationale, la majorité s'est épargnée une nouvelle cacophonie sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ce matin, les députés ont voté en première lecture une mesure qui étend le bénéfice du taux réduit de la CSG aux retraités les plus modestes. Le gain moyen attendu est de 38 à 46 euros par mois pour les 550 000 personnes concernées, sujet qui avait été déminé en amont entre socialistes. La droite a dénoncé des cadeaux faits dans une année, je cite, particulière. Ce qui nous conduit à la primaire de la droite, à moins d'un mois du premier tour. Le mano à mano entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé se joue ce soir dans la région stratégique de Provence-Alpes-Côte d'Azur. La plupart des barons locaux soutiennent l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui a profité de ce déplacement pour rencontrer des policiers cet après-midi à Marseille et qui se prépare pour le meeting qui se tiendra dans une salle de boxe de la ville ces prochaines minutes. Marseille, où le maire de Bordeaux est venu chatouiller son adversaire cet après-midi, déplacement dans les quartiers nord avant une réunion publique organisée à partir de 19h à Toulon. Stéphane Robert, pour Alain Juppé, il n'y a pas de chasse gardée.
Il n'y a pas de chasse gardée, non, mais quand même. Alain Juppé s'est bien gardé de venir défier frontalement Nicolas Sarkozy ici, dans ces terres du sud-est de la France, où la frontière est poreuse entre la droite et l'extrême droite, et où Nicolas Sarkozy avait recueilli près de 58% des voix au deuxième tour de la présidentielle en 2012. Pour autant, Alain Juppé n'entend pas délaisser certaines parties du territoire au motif qu'il serait plus sarkoziste. Oui, bien sûr, c'est chez Sarko, disait il y a quelques jours l'un de ses principaux conseillers, Gilles Boyer. Mais justement, on va le taquiner un petit peu. Et c'est ce qu'il a fait Alain Juppé. Ce matin, déjà, dans les quartiers nord de Marseille, où il a improvisé une visite au commissariat de police de la Busserine, quartier particulièrement sensible. Et puis cet après-midi et ce soir, il est ici à Toulon, sur les terres de l'un de ses rares soutiens dans la région, le sénateur-maire de Toulon, Hubert Falco. Alain Juppé, qui a fait un petit tour en bateau dans la rade de Toulon et qui a visité un chantier naval accompagné d'une meute de photographes de presse. Il n'a pas donné d'interview. Fidèle à lui-même, Alain Juppé, il a même eu ce petit commentaire cinglant. Moins je parle, mieux je me porte. Il faudra donc qu'il fasse un petit effort tout à l'heure pour le meeting qui se tient à la Garde, commune de la périphérie de Toulon.
Les précisions de Stéphane Robert. Et pour être tout à fait complet sur les agendas des candidats à la primaire de la droite, ce soir, Bruno Le Maire tient également une réunion publique à Croix dans le Nord. C'est également ce soir le deuxième débat télévisé de la primaire d'Europe Écologie Les Verts. BFM TV diffusera à partir de 20h le duel entre Yannick Jadot et Michel Rivasi. Alors que la production de miel en France a connu une nouvelle année catastrophique avec des récoltes en baisse de 60 à 80% dans de nombreuses régions, l'Union nationale de l'apiculture française organise son 21e congrès dans le Puy-de-Dôme jusqu'à dimanche à Clermont-Ferrand. Partout en France et dans le monde, les colonies d'abeilles sont décimées, comme l'explique Henri Clément. Cet apiculteur professionnel est aussi le secrétaire général et porte-parole de l'UNAF. Il répond à Viviane Le Guen.
Nous avons des taux de mortalité de colonies par an qui est considérable. On est passé de 5% par an à plus de 30%. Aucune filière agricole n'accepterait de perdre chaque année 30% de son cheptel. On a 1 200 000 ruches en France et on en perd à peu près 300 000 chaque année. Donc c'est épouvantable. Ensuite, au niveau des récoltes, nous sommes passés de 32-33 000 tonnes dans les années 90 à moins de 10 000 tonnes en 2016, qui a été la pire des années pour l'apiculture. Il y a aussi le bouleversement climatique qu'on commence à ressentir, et pour moi, qui me suis beaucoup battu contre les pesticides, bien sûr, les pesticides sont responsables en très grande part, mais le bouleversement climatique sera un enjeu très important pour demain. On voit déjà que sur le pourtour méditerranéen, les productions se réduisent parce qu'il y a des canicules de plus en plus importantes, des périodes de vent du nord, alors que les pays du nord de l'Europe, eux, ont tendance à produire plus qu'auparavant.
La météo, un temps lumineux pour le dernier jour de votre semaine, sauf sur le quart nord-est où il y aura des nuages. Les températures 9 à Rouen et Lyon, 10 à Amiens et Bordeaux, 11 à Tours, 12 à Paris, 14 à Montpellier et 19 à Ajaccio.